Bien, nous allons commencer donc cette table ronde consacrée à la littérature québécoise. Donc titre de la table ronde, la science-fiction d'expression québécoise, une intelligence de la francophonie, point d'interrogation. Donc avec cette table ronde, eh bien, je vous propose d'accueillir une assez forte délégation représentative vraiment de la littérature donc de science-fiction québécoise, et je vais donc vous présenter. Alors, un petit peu dans le désordre, en commençant peut-être par les aînés. Pardon, Esther. Alors, Esther Rochon. Esther Rochon est donc écrivaine, née à Québec en 1948. Elle habite Montréal depuis très longtemps. Elle a fait des études supérieures en mathématiques, tout en devenant, et ça c'est important pour sa littérature, une fervente adepte de la philosophie bouddhiste. Elle a publié de nombreux ouvrages qui lui ont valu, entre autres, 4 fois le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois. Allant de l'horreur à l'utopie, elle a parlé des fourmis, des mollusques et de Montréal, dans notamment La rivière des morts, son plus récent roman. Alors ensuite, nous avons Elisabeth Von Arbourg. Donc Elisabeth est peut-être la plus connue en France donc des écrivaines québécoises, peut-être parce que Elisabeth était française quand même. Et donc Elisabeth, elle est née, comme elle le dit elle-même, à la science-fiction en 1964, et elle vit à Chicoutimi donc depuis 1973. Alors, elle n'est pas uniquement écrivaine, elle a enseigné la littérature, et l'enseigne encore un petit peu dans diverses universités du Québec, Chicoutimi, Rimouski ou encore l'université de Laval. Elle est également agrégée de lettres modernes et elle possède donc un doctorat en création littéraire. Et elle est écrivaine à plein temps depuis 1990. Elle a obtenu de très nombreux prix pour ses nouvelles et pour ses principaux romans comme Reine de mémoire, Tyrannaëlle ou encore Chronique donc du Pays des Mers. Ensuite, nous avons Alain Bergeron. Alors, Alain Bergeron, au départ, n'était pas écrivain. Il a travaillé pendant près de 35 ans comme chercheur, puis comme administrateur dans le domaine des politiques de la science et de l'innovation au gouvernement du Québec. Son premier roman publié, Un été de Jessica, a été repris en feuilleton dans un journal de Québec. Lui aussi a été lauréat donc du Grand Prix de la science-fiction du fantastique québécois pour son roman Corps machine et rêve d'ange en 1998 et pour Faos en 2004. Nous avons ensuite Yves Ménard. De l'autre côté, je finirai par Sylvie. Yves Ménard donc est né à Québec, hein, ce qui était. Vivait toujours à Québec, Yves ? Non, du tout. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, il a débuté sa carrière littéraire en 1986. Il a publié plus de 50 nouvelles de SF en français et en anglais également dans de nombreuses revues, ainsi que 18 ouvrages, parmi lesquels on compte le roman Le Livre des Chevaliers aux éditions À Lire, de nombreux romans jeunesse, ainsi que 3 recueils de nouvelles. Le plus récent ouvrage d'Yves Ménard est Crisante, un très gros roman de fantasy en anglais, publié donc au début de 2012. Et nous terminons par Sylvie Bérard. Donc Sylvie Bérard est à la fois donc écrivaine et universitaire. Elle enseigne la littérature québécoise et la création littéraire à l'université de Trent dans l'Ontario. Ses champs de recherche incluent la science-fiction, les études du genre et les théories de l'énonciation. Et elle est l'auteur, en collaboration avec Magali Hull, du fascicule « La science-fiction de la perspective à la prospective » publié en 2012. Et elle a également publié plusieurs récits longs et courts, dont les romans de science-fiction « Terre des autres » en 2004. Voilà, et la saga, pardon, « Diliche » donc en 2011. Alors, la première question que j'avais envie donc de vous poser, eh bien, c'était peut-être faire, chacun d'entre vous, voir un point rapide sur l'évolution de la SF québécoise depuis vos débuts et depuis les années 60. On va commencer par Esther.
L'évolution de la...
Ah, attends, le micro, Esther, marche peut-être. Dans des problèmes de micro.
Est-ce que ça va?
Oui, c'est bon. Okay. Voilà.
Vous parlez de l'évolution de la science-fiction?
Oui, l'évolution. Enfin, quel est vous? Comment vous vous êtes finalement placé dans la science-fiction, donc au Québec, depuis vos débuts? Comment vous avez publié? Comment vous êtes venu à la science-fiction?
Eh bien, Je pense que pour moi, la science-fiction est un amour de jeunesse. Je lisais le journal pour jeunes Météor, qui appartenait à mes cousins quand j'avais 9 ou 10 ans.
Voilà, plus proche Esther, peut-être.
Et
voilà.
Ça a commencé très, très tôt. Il se publiait un petit peu de choses en science-fiction quand j'étais jeune au Québec, mais ce n'était pas de très bonne qualité, à mon avis. Et donc, ayant appris l'anglais en lisant Dune et Ursula Le Guin, etc., je voulais apporter au Québec toutes ces merveilleuses manières de penser si libératrices. Et c'est ce qui m'a motivée à devenir écrivain dans ce domaine.
D'accord. Elisabeth, donc, parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes donc dans ce milieu de la SF au Québec. Est-ce que vous avez vu une évolution entre la fin des années 70 et puis aujourd'hui, par exemple?
Oui, bien sûr, parce que quand je suis arrivée, la science-fiction québécoise moderne commençait, c'est-à-dire c'était en 73, le début des années 70. J'arrivais de France où j'avais lu énormément de science-fiction depuis l'âge de 15 ans. Je connaissais un petit peu le milieu de loin, parce que j'étais de la science-fiction française, qui était déjà très installée. Ça faisait 40 ans quand même, c'était déjà, tout le monde était installé, quoi. Bon. Alors qu'au Québec, ça commençait. Et j'avais commencé par publier des articles dans la revue de l'Université du Québec à Chicoutimi, où j'enseignais comme chargée de cours à l'époque. Alors la science-fiction et éducation, ou science-fiction et nourriture, enfin des machins complètement. Et alors là, un jour, j'ai reçu une lettre. « Chère madame, je dirige une revue qui s'appelle Requiem, etc. » C'était une lettre de Norbert Spenner. Il a très vite arrêté de m'appeler « chère madame ». Et j'ai comme ça commencé à collaborer à la naissance de la science-fiction québécoise. Et toi aussi, Esther, d'une certaine façon, mais un peu plus tard avec Imagine, ou bien tu étais aussi dans... Est-ce que tu étais dans Requiem aussi?
J'étais déjà dans Requiem sous forme d'entrevue et de critique de livres. C'est-à-dire j'avais rencontré Norbert au Congrès mondial de Toronto, Torcon, en 1973. Et de là, on avait établi quelque chose.
C'est ça, moi, je suis arrivée juste un petit peu après, en 1974. Là, j'ai commencé aussi à faire des critiques de livres. Puis peu à peu, Norbert s'est déchargé d'une partie de l'aspect littéraire. Je suis devenue donc, en quelque sorte, directrice littéraire... on dit pas apocryphe, mais implicite, enfin secrète, clandestine, pour la revue. Et j'ai donc eu cette joie de participer à la naissance d'un milieu de science-fiction. Et ça, c'était vraiment quelque chose de passionnant, de voir comment tous ces petits atomes qui flottaient un petit peu partout ont fini par se rassembler. Et c'était ça, mon premier contact avec la science-fiction. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Norbert m'avait envoyé, voilà ce qu'il faut que tu aies lu. Alors, il y avait de tout là-dedans. Il y avait des bouquins qui dataient du 19e siècle. Enfin, il y avait un ou deux bouquins du 19e siècle. Il y avait quelques bouquins du début du siècle. Il y avait les nouvelles de Thériault. Il y avait Jacques Benoît, il y avait Jacques Brossard. Mais il y avait pratiquement rien. Et j'ai été amenée à écrire un article qui s'appelait « La science-fiction au Québec ?» point d'interrogation. Parce que je me disais, mais enfin, qu'est-ce... On est en Nord-Amérique, là, ça devrait. Et ça m'a posé tout un tas de questions sur justement quel type de milieu est le plus favorable à la naissance d'une science-fiction dynamique et bien vivante.
Parce que contrairement à la science-fiction française, bien la science-fiction québécoise, donc, comme vient de le dire Elisabeth, et telle que l'a vécue Esther, est un jeune milieu de science-fiction et une jeune littérature. Et donc ça, c'est, je pense qu'on y reviendra parce que c'est une de ses singularités. Et vous, Alain, vous l'avez vécu comment, cette entrée dans la science-fiction?
Au moment où je suis entré, je pense que j'étais un de ces petits atomes qui flottait un peu partout. J'avais 24 ans, je n'avais jamais vu ou lu de science-fiction publiée au Québec. Ça, à ma connaissance, ça n'existait pas. La revue Requiem de Norbert Spenner commençait. Elisabeth venait de se joindre à ça, mais je ne connaissais pas ces personnes. Esther encore moins. Et puis je décide d'écrire un roman de science-fiction parce que j'admets ça. Je me dis pourquoi on n'en a pas chez nous. Et j'écris Un été de Jessica en 75. Il a été publié en 78. Et ma grande surprise, je vois arriver à un moment donné, je reçois des téléphones de Norbert, puis ensuite je rencontre Elisabeth à Québec dans un pub, et puis on nous dit non seulement il y a un début de science-fiction au Québec, mais on organise un premier congrès à Chicoutimi, of all places. Alors, ben là, j'en revenais pas, et voilà, c'est le début de l'aventure, parce qu'à ce premier congrès boréal où nous étions, nous avons rencontré des gens qui en avaient déjà fait un peu, qui avaient déjà pratiqué le genre et tout, et ça a été le premier lieu de rassemblement. Et il y avait à ce moment-là la revue Requiem, qui est probablement devenue le lieu d'ancrage, mais il y avait aussi le projet de la revue Imagine, que pilotait entre autres Esther Rochon. Et ça donnait lieu à ce moment-là à tout un éventail de possibilités sur le plan des publications.
À noter que ça, c'est Jean Petitgros qui m'a appris ça tout à l'heure, donc dans l'entretien que nous avons eu en début d'après-midi. La revue Solaris, hein, qui est une grande revue de science-fiction donc canadienne, c'est vraiment une vieille revue, puisque ça fait quand même 40 ans qu'elle existe, qu'elle tient bon la route. Et la revue Imagine est aussi une revue qui vraiment publie des textes critiques, des textes, aussi quelques textes d'auteurs. Et vraiment, je pense qu'au Québec, la science-fiction, c'est vraiment un milieu littéraire extrêmement vivant. Alors justement, Sylvie Bérard, donc Sylvie Bérard et Yves Ménard, donc vous appartenez à une génération, la génération d'après. Donc comment vous vous sentez finalement dans cette jeune SF canadienne, enfin québécoise, pardon.
Oui, c'est assez amusant de se faire dire qu'on appartient à la gang des jeunes quand on vient de s'acheter une deuxième paire de lunettes pour voir à l'écran, parce que ce n'est pas les mêmes que pour voir de loin. Et j'attends encore à avoir besoin de porter des lunettes pour lire, et j'y suis presque. Moi, quand je suis arrivé à la science-fiction québécoise, c'était assez intéressant parce que, en fait, comme Esther, j'ai appris à lire en anglais en lisant Dune, en lisant Ursula Le Guin, mais un peu plus tard. Et je savais, je m'étais rendu compte, mais pas comme une révélation extraordinaire, mais comme, ouais, il publie quelque chose, il y a une revue, là, Solaris, là, je vois ça, ouais, de la science-fiction québécoise. Et j'en avais acheté quelques numéros, mais je ne l'achetais pas régulièrement. J'avais lu des nouvelles, puis des fois, ça c'est bien, puis ouais, ça j'aime moins, mais ça c'est... Alors, c'était bien, mais je n'étais pas encore comme, il faut que je l'achète à chaque fois. Puis en 83, j'étais allé au Salon du livre de Montréal avec ma copine de l'époque, et j'ai dit, oh, mais regarde, il y a Boréal, congrès de science-fiction, on va y aller une heure. Je ne pouvais pas lui dire, on va y aller pour toute la journée, parce que ça ne l'intéressait pas à ce point-là. Elisabeth était là, et je me souviens, parce qu'il y avait mon ex-prof de français en secondaire 5 qui parlait de fantastique, et Elisabeth qui intervient, qui dit, oui, mais le fantastique cerninien là-dedans, alors ça m'est resté...
Il manque deux personnes sur cette table ronde. Oui. Il y a Joël Champetier qui n'a pas pu venir parce qu'il était malade, et il y aurait dû y avoir dans les grands anciens Daniel Cernin, qui a fait énormément pour la science-fiction, la fantasy et le fantastique au Québec. Oui.
Mais donc, c'est ça. Il y avait ces gens-là qui étaient là, qui avaient déjà publié. Et j'ai fait un passage éclair comme une comète en orbite hyperbolique. Je suis revenu 3 ans plus tard, et c'est vraiment à partir de Boréal 1986 où là, bon, là, j'étais rentré, j'étais intéressé. Là, j'achetais Solaris régulièrement et j'ai commencé à faire partie vraiment.
Il me semblait que tu étais arrivé dans le milieu parce que tu avais gagné le prix Solaris avec une nouvelle qui s'appelait Sans titre.
Non, en fait, c'est un petit peu avant.
Ben oui, c'est ça, c'était avant.
Un petit peu avant.
Et puis après,
en 86, j'ai fait le concours d'écriture sur place et que j'ai remporté. Et ça m'a beaucoup flatté. Ça m'a beaucoup donné d'encouragement. Et c'est ça, 88, le prix Solaris avec 100 titres. Oui, c'est ça. Donc, il y avait eu... c'est ça, je commençais tranquillement en 86-87.
Alors, oui, ben, un peu comme Yves Ménard, moi aussi, ça me fait un peu drôle. J'ai les lunettes de lecture, d'être dans les jeunes auteurs. Il y a plein de jeunes auteurs qui pourraient être ici parce que c'est un milieu, effectivement, qui a survécu à l'époque dont on parle. Moi, je suis venue à la science-fiction. J'ai été initiée à la science-fiction québécoise d'une façon un peu différente. J'avais comme ces deux vies parallèles où d'un côté, je lisais de la science-fiction, pas québécoise, depuis, ben, comme tout le monde un peu, depuis que je lisais des gros romans. Et j'écrivais, mais je faisais pas les deux, j'écrivais pas de la science-fiction. Et j'avais aussi un peu délaissé la science-fiction dans ma jeune vingtaine, parce que j'avais l'impression de moins me reconnaître, pour des raisons peut-être, justement, culturelles, ou pour des raisons féministes aussi, parfois, parce que j'avais pas découvert encore tout le domaine de la science-fiction avec des thèmes plus féministes. Alors, je suis revenue à la science-fiction, en fait, par le biais de l'université, par le biais de recherches. J'ai envie d'aller vérifier s'il se faisait autre chose que ce à quoi je ne m'identifiais pas. Et il y a eu aussi, je me rappelle mon premier congrès boréal, non pas à Chicoutimi, mais à l'Université du Québec à Montréal. Alors, ça devait être en 88, quelque chose comme ça. 86?
Non, 86, c'était Longueuil. Donc, 87 ou 88.
Alors, 86, 87 ou 88, en fait, dans les années 80, où là, j'ai vu tous ces auteurs québécois et je me suis dit, mais il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Alors, donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert à la fois les aspects plus féministes, par exemple, dans les corpus d'Esther Rochon et d'Élisabeth Von Arbour, et des aspects plus québécois aussi, voire... pas nécessairement, quoique parfois la mention du Québec, la mention des espaces québécois, mais peut-être une autre façon d'aborder la science-fiction. Alors, par la suite, il y a eu d'autres congrès boréales. J'écrivais toujours pas à ce moment-là de la science-fiction. J'écrivais des textes qui n'étaient pas de la science-fiction. Ça me semblait beaucoup plus difficile d'écrire de la science-fiction. Je me disais, mais comment font ces auteurs pour écrire leurs textes de science-fiction? Et c'est venu un peu, je dirais un peu naturellement, à un moment donné, il y a un texte de science-fiction qui m'est venu comme ça, et je pense que c'est celui que j'ai dû envoyer à la revue Imagine pour leur concours, et j'ai remporté le concours, alors je me suis dit, je suis peut-être capable finalement d'écrire de la science-fiction, alors j'ai plus jamais arrêté en fait.
Voilà, donc merci. Alors, j'ai posé tout à l'heure une question à Jean Petitgros, hein, lui. Alors, c'était une question difficile, c'est-à-dire comment pourrait-on finalement, pour notre public français, poser la singularité de la science-fiction québécoise par rapport finalement à la science-fiction française. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez peut-être des éléments à rajouter. Mais Jean m'a dit, en fait, il y a peut-être trois éléments qui permettent. Mais encore une fois, il faut prendre en compte évidemment toutes vos singularités d'auteur, les univers que vous créez. Mais voilà, grosso modo, il y a d'abord un rapport à l'espace différent par rapport évidemment à la science-fiction française, parce que l'espace évidemment du Québec, du Canada est totalement différent par rapport à la France. Ensuite, il n'y a pas vraiment de science-fiction, on va dire, militariste ou militaire ou guerrière. Et puis, troisième élément, peut-être un style particulier, un style peut-être plus percutant qu'à imiter finalement des Américains. Vous voyez, donc je ne sais pas. Hein, ça, c'est vous qui allez me dire. Est-ce que voilà, ce que ça vous semble finalement ces éléments-là permettent de définir un petit peu la science-fiction québécoise.
Elisabeth. Je dirais que pour les deux premiers éléments, oui, c'est pas faux. Il y a effectivement un rapport à l'espace et à la nature qui est différent dans la science-fiction canadienne, et ça n'est pas spécifiquement québécois. Ça, c'est vraiment un rapport à la nature et aux éléments qui est du Nouveau Monde et pas de l'Ancien. Ici, le moindre brin d'herbe est cultivé depuis 2000 ans. Non, on n'a pas ce poids-là dans le Nouveau Monde. Il est encore un petit peu nouveau. Il y a... le deuxième élément, c'était... L'absence de militarisme. Effectivement, il n'y a pas de science-fiction militaire. Il y en a au Canada anglais, mais pas au Québec, effectivement. Il y a quelque chose de très curieux au Québec qui m'a beaucoup surprise au début, parce que j'étais quand même dans la science-fiction politique des années françaises, des années 70, justement. C'est qu'au Québec, où pourtant la question politique était importante, on sortait On sortait de ce qu'on a appelé la révolution tranquille, qui a eu quand même des emprisonnements et l'armée dans les rues dans les années 70. On avait eu un mouvement de révolte dans les années 80 du 19e siècle. Enfin, il y avait quand même une revendication politique de séparation, d'indépendance, de francophones dans un milieu anglophone. Et rien de tout cela ne transparaissait dans la science-fiction. Et les gens s'appelaient Jones, et ils étaient dans des vaisseaux qui s'appelaient le Startup Prize, et enfin bon, ce genre de choses-là. Et j'étais là, mais enfin, en tant que directrice littéraire, je les voyais passer, je me disais, mais bon, ça s'est calmé, ça s'est beaucoup calmé, et de ce point de vue-là, la science-fiction québécoise est entrée dans son propre domaine. Elle est maîtresse chez elle jusqu'à un certain point. Elle n'est pas maîtresse de son marché, mais elle est bien placée sur son marché. Le troisième élément, on écrit plus percutant comme les Américains. Ah.
C'était une question.
Oui, c'est une question. C'est une question. Est-ce que nous écrivons plus percutant? Ben, nous écrivons comme les histoires que nous écrivons ont besoin d'être écrites. Même des gens comme Yves, qui est totalement bilingue et qui écrit et qui publie en anglais. Tu as oublié de dire que son roman Crisante, je ne sais pas, je n'ai pas entendu, a été publié d'abord en anglais, comme le Livre des Chevaliers, et qu'ensuite il l'a traduit. Bon. Même des gens comme lui ou Jean-Louis Trudel qui écrivent en anglais aussi bien qu'en français, leur style est leur style. Il n'y a pas vraiment de truc à l'américaine. Moi, on m'a dit que j'écrivais plus efficace.
Ah bon ?
Et on a voulu y voir une influence nord-américaine. Non, il y a des écrivains nord-américains qui écrivent d'une façon très proustienne. Et il y a une espèce de je pense que ça doit être des relents d'Hemingway. Le fantôme d'Hemingway hante la conscience des critiques francophones. On écrit efficace. Non. On écrit sec, court et non. Pas vraiment. Et les Américains non plus. Les Anglais non plus. Donc ce dernier point-là est vraiment une question. Les deux autres, il y a les réponses. Qui seraient effectivement, c'est pas faux.
Alors maintenant, pour notre public, justement, moi j'aimerais bien que vous nous donniez chacun, en quelques mots rapides, peut-être la particularité de vos univers, ce que vous avez voulu créer finalement, parce que moi en lisant, j'ai découvert finalement il y a assez peu de temps la science-fiction d'expression québécoise et francophone bien sûr, et j'ai trouvé que c'était des univers qui étaient singuliers, et qui n'existait pas forcément, évidemment, en France. De toute façon, tous les univers de science-fiction sont des univers singuliers. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une particularité, une liberté dans l'invention. Et là, je voudrais que chacun, vous nous disiez, voilà, qu'est-ce que vous avez peut-être voulu créer comme univers science-fictif ? Est-ce que ce sont des univers hybrides avec la fantasy ? Est-ce que ce sont plutôt des univers technologiques ? Et on va commencer par Esther, parce que Esther, dans son cycle sur l'enfer, dont je vous recommande très fortement la lecture, c'est vraiment une science-fiction particulière, imprégnée peut-être par le bouddhisme, je ne sais pas, elle va nous le dire, mais c'est vraiment des images singulières, très originales, quelque chose que vous n'avez jamais lu nulle part. Voilà, donc Esther.
Oui, je pense que d'abord dans mon premier projet d'écriture qui était le cycle de Vrenalik, j'ai voulu, et plusieurs personnes l'ont vu, j'ai voulu opérer une sorte de lien entre l'univers occidental auquel se rattache fortement le Québec et nos racines amérindiennes des Premières Nations. Donc j'ai ce personnage de sorcier, et ce genre d'utopie qui mêlerait l'aspect intuitif et l'aspect rationnel. C'était un peu le gros projet de cela. Ensuite, pour les Chroniques infernales, des années plus tard, j'avais envie de vraiment me démarquer des gens qui, je l'avais lu quelque part, me voyaient comme une brave dame qui fait de la confiture dans sa cuisine quand elle écrit. Alors, je voulais vraiment sortir de là. Alors, vous avez un univers franchement sadomasochiste avec des fantasmes débridés. Que les meilleurs d'entre eux, je les ai répétés dans ma tête pendant que je faisais de la méditation bouddhiste, d'ailleurs, parce que je m'emmerdais joyeusement et j'étais en train de fantasmer énormément par pur plaisir. Je pense que oui, il y a quelque chose de Pour moi, écrire, c'est vraiment un espace de liberté. Plus que la vie quotidienne, c'est complètement différent. Et c'est venu de cette sorte de révolte, je dirais, je pense que le terme révolte n'est pas trop fort, contre ce que je percevais des rigueurs du monde ordinaire. Voilà.
Merci. Elisabeth, peut-être?
Mais Esther, tu ne sous-estimes pas un petit peu la place du bouddhisme dans ton imaginaire?
Oh, si vous voulez que je parle de ça, j'en aurai pour longtemps.
Non, mais c'est présent quand même aussi. Il y a un rapport avec aussi le côté amérindien, mais il y a tout, dans les nouvelles, beaucoup, souvent, il y a toute une dimension métaphysique et philosophique qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans la science-fiction occidentale.
Je suis très heureuse que certaines personnes le voient. C'est vrai que pour les chroniques infernales, j'étais en train de m'inspirer en fait des enfers bouddhistes qui existent dans la cosmologie bouddhiste standard, et aussi la loi du karma qui est une joyeuseté du genre l'inévitabilité du fait que si on a fait quelque chose de mal et qu'on ne se repent pas, ça va s'infecter et ça va nous valoir des conséquences abominables. Je ne suis pas sûre que j'accepte ça jusqu'au bout, mais évidemment, dans mes châtiments et tout, je m'en suis donné à cœur joie.
Bon, alors j'ai fini de me défiler là.
Je te redis la question, Elisabeth, c'est ça? On est en fin de journée. Il y a
Non, c'est pas ça. C'est mes univers. Mes univers ne sont pas spécifiquement québécois. Enfin, du moins, le Québec a mis un certain temps à venir. Moi, j'avais une espèce de Québec fantasmé. J'ai toujours un Québec fantasmé. Je peux bien vivre toute ma vie. Là, j'ai vécu les deux tiers de ma vie au Québec. Je ne suis toujours pas vraiment une Québécoise. Je suis toujours une importée. Et le regard que je porte sur le Québec n'est pas celui des gens qui y sont nés. Bon. Mes univers me sont venus beaucoup plus tôt. L'univers de Tiranael, il a commencé quand j'avais 16 ans. Donc, ça n'a aucun rapport. Mais par contre, à mesure, puisque je l'ai écrit 5 ou 6 fois ou 7 fois, et que les 4 premières versions ont été écrites pendant les 10 premières années où j'étais au Québec, j'ai vu d'une version à l'autre les paysages du Québec et les saisons du Québec s'infiltrer dans mes textes, et aussi toute une problématique qu'on appelle maintenant postcoloniale, n'est-ce pas, ça fait bien, toute une problématique politique, mais qui était déjà là pour moi, qui a ajouté en quelque sorte un registre de plus. Il y avait tout, pour moi, il y avait la relation parent-enfant, la relation Dieu-créature, enfin créateur-créature, et la relation pays colonisé, colonisateur-colonisé, tout ça, c'était des expressions de la même relation de pouvoir, pour moi, d'une certaine façon. Donc, ça s'est venu, c'était déjà là, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus délibéré, pour moi, de mettre ces aspects-là dans mes univers. Maintenant, pour ce qui est... Pour moi, un univers, c'est déjà quelque chose de physique. Ce sont des paysages, ce sont des décors, ce sont des saisons, une faune, une flore, enfin tout ça. Et ces choses-là, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne pourrais pas dire, il faudrait demander à mes exégètes, jusqu'à quel point est-ce que ça dépend de l'endroit où on est. Beaucoup de mes histoires se passent en fait dans une espèce d'Europe fantasmée. Je fantasme les deux maintenant. Je suis quelque part entre les deux. Donc voilà, mes univers, c'est à peu près ça. Et ils sont parallèles, c'est surtout ça. Ils sont parallèles et ils circulent les uns dans les autres.
Alain ?
Alors, pour être bref, je pense que j'ai écrit mon premier roman, c'était vraiment marqué par l'époque, par les lectures que j'avais faites. C'est la science-fiction des années 60, beaucoup axée sur le New World, et particulièrement la figure de Philip K. Dick qui m'a particulièrement inspiré. plus tard, je pense que je suis tombé un peu dans le saut du cyberpunk, de mon admiration pour William Gibson, et bon, ça a donné lieu au, il y a 10 ans au, à mon roman Pharos. Et depuis quelques années, je cultive plutôt l'Uchronie. Et en fait, c'est ce qui m'occupe actuellement principalement. Alors ça, je pourrais en reparler plus tard.
Oui. Mais, merci Alain. On va revenir après. Sylvie Bérard, donc la marque, votre imaginaire.
Je ne sais pas si c'est proprement, je ne pense pas que ce soit proprement québécois non plus. Mon imaginaire, je pense, en est un où il y a un refus de définir un clan des bons et un clan des méchants. Des espèces de plutôt construire des, non pas des utopies ambiguës, comme dit Ursula Le Guin, mais des dystopies ambiguës où tout a l'air un peu négatif, mais en même temps, on peut quand même réussir à survivre. J'étais sensible aussi à ce que Elisabeth Von Arbour a dit sur les représentations postcoloniales. Ça ne s'applique pas nécessairement toujours au Québec, mais il y a Amy Ransom qui a fait un travail assez intéressant sur la science-fiction québécoise et le postcolonialisme, si jamais ça vous intéresse. Ça ne s'applique pas tout le temps parce qu'on a comme des strates de colonialisme au Québec, des strates qui sont à la fois... les Français colonisant un pays qui était déjà habité et se refaisant coloniser aussi par les Britanniques quelques siècles plus tard. Alors, ça donne peut-être la science-fiction que j'écris où il y a des conflits entre différents groupes, mais où justement il y a plus une incompréhension qu'un manichéisme ou que ce soit un clan des bons et un clan des méchants. Et je m'intéresse plus à ce qui se passe entre les individus qui sont à leur niveau privé le reflet aussi de ce qui se passe au niveau politique. Donc, je préfère, moi, et c'est peut-être là aussi où ça rejoint un petit peu ce qui a été dit aussi sur le refus du militarisme. Mais je ne suis pas tellement intéressée aux conflits macro. Je suis plus intéressée aux interactions au niveau microcosmique. Donc, ça pourrait définir un peu en général ce que je fais.
Et donc, Yves Ménard, est-ce que vous, votre imaginaire, c'est pas un imaginaire un petit peu quand même hybride avec... est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Est-ce que ça ne s'hybride pas avec la fantasy?
Oui, dans mon cas, ce qui arrive, c'est que si j'essaie d'écrire un roman, d'avoir l'idée pour un roman, pour l'instant, c'est pas de la science-fiction, exception faite de Suprématie, mais qui a quand même été écrit en collaboration avec Jean-Louis. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est Laurent McAllister qui a écrit ce roman-là. Mais oui, dans les univers que je construis sur de longues œuvres, ça tend à être de la fantasy, mais... D'abord, j'ai le besoin de ruer dans les brancards. Je ne veux pas réécrire ce qui s'est déjà écrit 20 fois, puisque c'est déjà disponible. Alors, pour moi, je vais vouloir questionner certaines choses, poser des questions, puis qui vont être, à ce moment-là, un peu plus scientifiques. Il y a un aspect, dans Le Magie Fourmi, mon premier roman pour jeunes, je me disais, bien, les magiciens avaient le pouvoir d'affecter la Lune. Et puis, s'ils désiraient l'attirer plus proche de la Terre pour la faire tomber sur quelqu'un, mais le problème, c'est qu'il y a, une limite de distance, et ça, c'est très physique, en deçà de laquelle la Lune ne pourrait pas conserver son intégrité parce qu'elle serait, elle éclaterait en morceaux à cause du stress gravitationnel, les effets de marée. Et bien, c'est ça. Alors, j'ai dit oui, la Lune a explosé et il en reste juste une traînée de poussière autour de la Terre. Et là, je voulais mettre des éléments plus science-fictionnels qui interagissent parce que sinon, c'est paresseux. Ah, c'est la fantasy, oui, bien c'est ça. Et on est toujours en 1150 et on sera toujours en 1150 et jamais rien change. Ben non, je m'interroge, je vais te dire. Dans Crisante, je me suis posé la question, entre autres, je dis, si on a un monde comme ça qui est atemporel, qui est éternellement plongé dans une espèce de pseudo-Moyen-Âge, mais pourquoi et comment ça se fait? Puis c'est un détail, mais j'ai dit, bien, en fait, c'est pas possible. Alors, premièrement, ils sont pas capables d'utiliser la combustion du pétrole. Ils peuvent faire brûler de l'huile végétale, mais ils n'ont pas accès à du pétrole. Ils ne peuvent pas créer des engins. Puis, dans le roman, ils pourraient, en théorie, importer la technologie de la vapeur. Et l'attitude des souverains, quand on leur présente ça, c'est non, non, on voit dans ces mondes parallèles où il y a les révolutions industrielles, on voit c'est dégueulasse, c'est sale, c'est crasseux. Jamais nous ne laisserons notre monde souillé par ces idées-là. Donc, il n'y a pas de progrès technologique, mais il y a aussi le fait qu'il y a des changements sociaux et puis que, ben, au 5e millénaire, la société était très, très guerrière. Et puis ceux du début du 6e millénaire n'auraient jamais cru s'ils avaient vu à quel point leur passé était barbare. Donc, je vais essayer de déconstruire les clichés. Je vais y aller autrement pour jeter un regard neuf parce que c'est ce qui m'excitait dans la science-fiction, c'est de jeter un regard neuf sur le monde, et si. Mais là, si ça fait 20 fois qu'on me présente la même spéculation, je la connais par cœur. Alors, pour retrouver ce qui m'excite dans la science-fiction, je vais vouloir faire quelque chose de nouveau, de questionner, de provoquer, d'essayer d'avoir des choses auxquelles on ne s'attend vraiment pas.
Oui, alors, d'après tout ce que vous me dites, moi, je retire quand même de vos univers cette volonté quand même très forte d'aller vers l'originalité, la singularité, et ça c'est pour moi c'est vraiment une marque finalement de cette science-fiction québécoise qui reste quand même en France à découvrir. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait dans la science, enfin la science-fiction québécoise, une des grandes expressions cette fois-ci formelle finalement de la science-fiction québécoise, c'est la nouvelle. Alors je voudrais que vous me parliez un petit peu de pourquoi la nouvelle. C'est le cas aussi évidemment aux États-Unis par exemple ou en France. Mais vraiment, je trouve que dans la science-fiction québécoise, il y a une grande prédominance de cette forme de la nouvelle. Alors, pourquoi est-ce que la forme courte, ça marche si bien au Québec? Je ne sais pas qui veut. Esther?
Oui, certainement. Il y a une raison historique, je pense, pour cela. C'est que pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, c'était difficile pour les romans de science-fiction ou de fantastique de se faire publier. Moi-même, j'avais terminé L'épuisement du soleil. La rédaction était terminée en 1978 et c'est seulement en 1985 que j'ai eu un éditeur, en somme. Et même chose pour Coquillage, le second roman, qui a pris aussi beaucoup de temps. Et donc, on avait par contre, depuis 1974, à peu près, 73-74, il y avait Requiem devenu Solaris. Et puis, imagine, alors il y avait une demande de la part des éditeurs de textes courts, dans le cas de Requiem Solaris à l'époque, et de textes soit courts, soit plus longs, novella en somme, pour Imagine, avec des recueils aussi, des anthologies ou des recueils sur un même thème écrits par plusieurs auteurs et tout cela. Et je pense que le goût est resté et les débutants, en général, vont commencer par la nouvelle. Je suis l'exception, j'ai commencé par publier un roman et des nouvelles ensuite. Mais la plupart des gens, et donc la pépinière des auteurs est regardée de près par les directeurs de revues professionnelles ou amateurs. Il y en a eu plusieurs, il y en a encore. La richesse vient de là, je pense, entre autres.
Oui. J'ajouterais simplement à ceci qu'il y a eu des ateliers d'écriture annuels depuis la fin des années 70, et donc dans ces ateliers, on privilégiait évidemment la forme de la nouvelle et qu'on formait d'abord des nouvellistes. Bon, que les gens commencent plutôt par des nouvelles que par des romans, hélas, c'est de moins en moins vrai, mais ils n'ont pas le temps d'apprendre. Mais effectivement, on a pu le faire au Québec parce qu'il y avait les supports. Il y avait les supports pour la nouvelle, il y avait d'autres revues, en fait. Il y avait Solaris et Imagine, il y avait aussi une revue dont je dois citer le titre parce qu'elle est merveilleuse, même si elle n'a pas duré longtemps, Pour ta belle gueule d'Ahuri. Le chose de Claude Meunier, c'était quoi?
Claude Mercier, Proxima.
Proxima, voilà, il y avait Proxima.
Oui. Donc pendant il y a eu Samizdat avant.
Oui, c'est ça, avant Samizdat. Il y avait donc des supports. Mais des supports et donc de la demande.
Oui, parce que finalement, la nouvelle a vraiment, enfin, cette prédominance de cette de cette forme courte, justement parce qu'il y avait le support éditorial, c'est à forger, moi j'ai l'impression quand même une certaine identité formelle de cette science-fiction québécoise. Et alors, j'avais deux dernières questions.
Est-ce que
là, oui, pardon, Sylvie. Oui.
Non, parce qu'il y a quelque chose aussi que je voudrais mentionner, c'est que la fondation des deux revues de science-fiction dont on a parlé, Imagine et Solaris, est aussi contemporaine de la fondation, à peu près dans les mêmes années, de deux revues de nouvelles québécoises aussi, Stop et XYZ. XYZ existe toujours. Donc, fin des années 70, début des années 80, le milieu de la nouvelle et le milieu de la science-fiction se consolident aussi au Québec. Et il y a énormément aussi de recueils d'anthologies de la science-fiction ou d'anthologies de nouvelles qui se publient aussi au début des années 80. Alors, je pense que c'est peut-être pas aussi, étranger au phénomène, au fait qu'il y a une sensibilité à la nouvelle dans la science-fiction. Et ça continue à faire partie de la jeune tradition aussi.
Merci Sylvie. Voilà, je me dépêche parce que je vois l'heure qui tourne un petit peu pour laisser au public un petit temps donc de questions. Les deux derniers éléments que je voulais voir avec vous très très rapidement, eh bien c'est si vous aviez peut-être un nom à proposer au public ou une préférence par rapport à cette science-fiction québécoise, chacun, qu'est-ce que vous citeriez finalement en dehors de vos œuvres? Et puis la deuxième question, ce serait finalement, quel est l'avenir, d'après vous, de cette littérature francophone quand même, dans un espace science-fictionnel très très concurrentiel par rapport aux États-Unis? C'est-à-dire que je sais bien qu'au Québec, on se bat véritablement pour l'expression française. Voilà, mais comment est-ce que vous voyez cet avenir finalement sur le continent américain, qui est un continent très concurrentiel donc à ce niveau? Alain?
Bon, pour ce qui est de la deuxième question, d'abord, je crois que l'avenir des littératures de l'imaginaire au Québec est beaucoup lié à l'existence d'un éditeur qui vraiment a pris en charge la presque totalité de la production, en tout cas de la production valable, celle qui est publiable, et qui le fait avec un dynamisme assez extraordinaire. Évidemment, je parle de la Maison à lire. Et je crois que si la Maison à lire n'avait pas existé, beaucoup d'œuvres, beaucoup de projets n'auraient jamais vu le jour. Et dans quelle mesure peut-on dire la chose suivante? L'avenir de la science-fiction québécoise est relié à l'avenir de la Maison à lire? Je ne sais pas. En tout cas, je peux au moins poser la question.
Oui. Oui, est-ce que vous pourriez citer un auteur ou une?
C'est un peu gênant de citer auteur, mais à mon avis, je vais parler vraiment à mon nom personnel en termes de préférence. Je crois que le cycle de Tyrannaël d'Elisabeth von Harbour en tout cas, je crois ce qui s'est écrit de meilleur au Québec dans le domaine de la science-fiction.
Elisabeth ou Esther?
Je suis de naturel pessimiste. Alors, l'avenir, normalement, je dis toujours, oh, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir une relève? Parce que c'est en termes d'éditeurs, c'est vrai, mais en termes aussi de jeunes écrivains ayant envie de se lancer dans ce genre particulier qui est l'imaginaire. Le Québec n'est pas un paradis, et ce n'est pas un paradis pour les intellectuels, et ce n'est pas un paradis pour les gens qui font de la science-fiction, qui sont relégués en général. On me dit, ah, vous écrivez pour les étudiants de secondaire 2, c'est-à-dire les jeunes qui ont 12-13 ans, parce que c'est à cet âge-là, bien sûr, qu'on étudie la science-fiction au cours secondaire. Je me fais... tout le temps envoyé dans la littérature pour jeunes, et j'ai l'impression qu'un jeune écrivain ou une jeune écrivaine débutante ne trouve pas le milieu terriblement attractif, en somme, parce que les gens en place ont décidé que nous, on faisait des choses pour jeunes et qu'eux, ils ne lisaient pas ce genre de choses-là. Pour ce qui est de... Vous parliez d'un mot qui résumerait l'ensemble de la... Québécitude en science-fiction, c'est, je vous ai bien compris.
C'était comment vous voyez l'avenir. Enfin, oui, l'avenir, vous en avez parlé. Donc, finalement, oui, peut-être, est-ce que vous avez un auteur préféré dans la science-fiction québécoise?
Moi, le nom qui me vient à l'esprit, c'est plutôt du côté de la relève, des gens qui ne sont pas encore... j'aimerais mentionner quelqu'un dans la relève. Ariane Gélinas, qui est une jeune auteure talentueuse. Je dirais qu'elle est probablement pas encore écrit ses chefs-d'œuvre, mais ça pourrait venir.
Oui, ben c'est ça. Le statut de la SF est un petit peu particulier parce que il y a le changement dans les techniques d'édition, d'impression, qui fait et aussi une espèce de conjoncture économique qui fait qu'il y a en ce moment un déferlement ahurissant d'œuvres de SF québécoises qui, d'après ce que je comprends, sont, je vais dire une méchanceté, mais les éditions ADA semblent publier n'importe qui et n'importe quoi du moment que c'est de la SF, et au point où ça en devient une tumeur monstrueuse parce que vous avez 22 ans. Vous écrivez, vous avez écrit une histoire avec des nains puis des dragons, bien, on va te publier ça, ma belle, et t'es devenue une auteure. Et je sais pas si c'est une tumeur qui va finir par nous tuer ou si elle va se flétrir ou si les gens qui font ça puis qui considèrent que c'est normal de débuter sa carrière sans avoir de direction littéraire, est-ce que là-dedans, il va surnager les auteurs? Je sais pas. Dans un sens, c'est passionnant, mais c'est passionnant comme de regarder un grand malade se débattre entre la vie et la mort. À lire est très vigoureuse, donne des très bonnes choses. Je me dis, bon, on espère qu'il n'y aura pas seulement à lire. Quand je suis arrivé en SFQ, c'était les éditions de M. Patard...
Le préambule,
qui, après avoir fait 10 ou 11 romans, était sur le point de se retrouver les quatre fers en l'air. Et ça a pris un temps. Puis là, tout à coup, quand Alire est arrivé, on lui dit, bon, je ne crois pas, ils vont t'offrir 10 bouquins. Ah non, il en a fait 10. Ah, il en a fait 20. Ah, et finalement, ça a marché.
Il y a 250.
Oui. Alors donc, tous les espoirs sont encore permis. Mais comme on dit, c'est la malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. Pour la relève, ben moi, je vous dirais qu'il y a un auteur qui mérite le détour, Éric Gauthier. C'est pas le seul nom que je pourrais citer, mais je citerai Éric comme quelqu'un qui a fait une uchronie vraiment spectaculaire. Montréal, qui est un Montréal alternatif avec de la magie, avec des... C'est vraiment impressionnant et nul besoin d'être québécois pour le goûter, encore que probablement qu'on le goûte plus quand on connaît la ville. C'est quelqu'un à surveiller pour les prochains livres qu'il va faire. Vraiment, absolument.
Moi aussi, je vais dire du bien des éditions à lire. Parce que en science-fiction, ce qu'il faut, c'est des éditeurs qui font du travail d'édition. Et les éditeurs dont Yves Ménard parle et d'autres aussi, le problème souvent, c'est qu'ils ne font pas ce travail. Parce que évidemment, nous tous ici, nous écrivons très bien, puis pourtant, on s'est fait réviser des chapitres, on s'est fait couper des chapitres, on s'est fait enlever des paragraphes. Enfin, il y a un travail d'édition qui doit être fait et qui n'est pas là pour. C'est pas malfaisant, c'est vraiment pour dans le but d'améliorer le livre et qui se fait en collaboration avec l'auteur. Donc, je serais optimiste si je voyais apparaître un autre éditeur qui fait autant un bon travail d'édition que les éditions à lire. Par ailleurs, pour ce qui est des noms, je ne vais pas nommer quelqu'un qui est de la relève, mais je vais nommer Francine Pelletier parce qu'elle fait, elle aussi, peut-être la science-fiction autrement. On dit qu'elle fait de la science-fiction douce, mais quand on lit vraiment ses romans, on se rend compte que, oui, effectivement, c'est pas, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de grande guerre et tout ça, mais elle joue avec des sentiments humains très subtils, et je pense qu'elle aussi publie aux éditions à lire, et elle a publié auparavant ailleurs aussi. Son œuvre vaut vraiment le détour.
Merci. Élisabeth, Alors, le mot de la fin, et après nous passons aux questions pour le public.
En tant qu'animatrice d'atelier d'écriture, moi je vois arriver la relève et je la cultive assidûment. Et donc, je pense qu'il y a une relève, aussi bien dans le fantastique que dans la fantasy, que dans la science-fiction, ce qui est plus rare dans la science-fiction. Les romans dont tu parlais, qui sont publiés n'importe comment par n'importe qui, ce sont essentiellement des romans de fantasy, il n'y a pas beaucoup de science-fiction. Mais il y a ce phénomène de, oui, je veux être publié, je peux être publié, je suis célèbre. Et la plupart de ces jeunes écrivains ne veulent pas être bons, ils veulent être célèbres. C'est complètement autre chose. Le temps qu'ils se rendent compte que... Bon. Alors moi, dans la relève, j'ai quelqu'un qui s'appelle Dave Côté, qui est complètement sauté, déjanté. C'est un peu Éric Gauthier, mais sur la speed. Non, il a vraiment un imaginaire très personnel et j'en attends de grandes choses. Peut-être pas tout de suite. C'est comme Ariane Gélina. Elle, si elle arrive à passer sa bosse d'écriture, ça va faire de quoi. Donc, il y a de la relève. Maintenant, au niveau de l'édition et du futur, oui, on se pose tous la même question avec angoisse. OK, on tient à lire parce que Alir est un éditeur qui sait ce qu'il publie, qui le publie bien, qui le travaille bien et qui aime ce qu'il publie. Alors, des éditeurs comme ça, il n'y en a pas lourd. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au Québec... Il n'y en a pas vraiment d'autres qui publient dans les genres et qui font, qui aiment, qui savent et qui font bien. Alors c'est ça le problème. C'est ça notre problème. Alors qu'ici en France, vous avez quand même davantage d'éditeurs qui... Maintenant, d'un autre côté, il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui ont lu, qui ont été élevées avec à lire. Et il y en a qui font pas forcément, qui ne veulent pas forcément devenir des écrivains, mais qui deviendront peut-être des éditeurs. Ils deviennent déjà des critiques. C'est déjà pas mal. Moi, je suis prudemment optimiste.
Merci Elisabeth Von Arbourg. Donc, nous allons passer aux questions, s'il y en a. Oui, mais non, 5 minutes. Georges.
Juste un truc que je tenais à remarquer. Vous parliez tout à l'heure du fait que la nouvelle fonctionne bien au Québec. Je tenais à faire remarquer qu'en France, la science-fiction a aussi démarré par la nouvelle grâce à des revues qui ont disparu depuis et qui n'ont pas été remplacées. Je pense essentiellement à fiction, mais il y a eu Satellite, il y a eu Lunatique et quelques autres.
Oui, donc Georges, ce n'était pas une question, hein, c'était une remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, non, oui, non, non.
Non,
non. Non. Okay. Donc pas de questions, mais écoutez, nous allons clore cette table ronde. Merci de votre attention et nous remercions donc nos amis québécois d'avoir fait ce grand voyage pour nous et de nous avoir permis à nous aussi de voyager. Bonne soirée, merci à tous.